Il est 5h13, voici les chroniques littorales avec José Manuel Lamarque et on entame votre journal des Outre-mer par la Nouvelle-Calédonie où la solidarité s'organise après le passage du cyclone Oma.
Et cela s'est traduit hier matin, Mathilde, place des Cocotiers à Nouméa par un vide-grenier destiné aux populations de la province nord qui ont été touchées par le cyclone. Et ça s'est aussi traduit par des dons en argent ou le plus souvent en nature. Nos confrères de la première Nouvelle-Calédonie ont tendu leur micro dans les allées de ce vide-grenier caritatif.
Je sais que c'est pas facile pour ceux qui ont été victimes de cyclones ou autres catastrophes naturelles. Du coup, je me suis dit pourquoi pas les aider en ramenant du linge. C'était la seule chose que je pouvais ramener. C'est avec plaisir.
On a entendu l'appel pour le Nord et comme on avait beaucoup de couvertures, de draps, de thés d'oreiller, des pulls, etc. Donc on s'est dit que c'était le moment de pouvoir les donner après le cyclone.
Vous pensez que c'est important de participer à...
Ah oui, je pense que c'est très important d'aider. La solidarité, c'est important dans notre pays. Et puis autant que ça serve, on dépense beaucoup trop, la consommation et tout.
Vous connaissez des gens dans le Nord qui ont été touchés par Oma, peut-être ?
Certaines personnes, oui, notamment la tribu de Tiari, oui.
Moi, j'ai dit, s'il y a des affaires que je peux donner, je donne, quoi, pour aider, voilà. On est prête pour aider les gens qui sont en difficulté, quoi.
Voilà, un vide-grenier caritatif à Nouméa pour les victimes du cyclone Oma. L'effet gilet jaune s'est étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Et oui, pour la première fois dans l'archipel, une vingtaine d'habitants revêtus de gilets jaunes se sont rassemblés dans le calme samedi après-midi sur la place du Général de Gaulle à Saint-Pierre. Delphine Jeannot de la première Saint-Pierre-et-Miquelon les a rencontrés.
En fait, on essaie de se battre déjà pour la vie sociale, surtout le coût de la vie, et surtout pour l'avenir, parce que nos jeunes, on n'en a plus. On dit que la population est vieillie, mais le problème, on ne fait rien pour que les jeunes reviennent. Donc, c'est bien beau de proposer des salaires à 7-8 000 euros pour des gens qui ont 40-50 ans, mais les jeunes qui ont 20 ans, on leur propose rien du tout. Et on leur dit, va faire des études au Canada ou en France, puis quand ils reviennent ici, ils sont au chômage. Donc, on se bat vraiment pour que maintenant, le travail soit débloqué, et sincèrement, que la population se réveille, parce que c'est fini de dépenser 300 euros, il n'y a rien dans le caddie. À manger des cailloux, à la fin, on n'en peut plus.
Je suis surtout là pour les gens qui sont retraités. Je connais énormément de gens pour qui ils ont travaillé depuis l'âge de 13 ans. Puis aujourd'hui, ils sont obligés de manger une tranche de jambon cuit entre deux tranches de pain parce que leur retraite ne leur suffit pas. Je suis là aussi pour les gens qui travaillent dans tous les commerces partout, puis dans les restaurants et tout. Ils gagnent 1500 euros par mois. Puis il faut qu'ils se logent à Saint-Pierre pour ça. Et puis il faut qu'ils se nourrissent. Puis ils doivent rien devoir à personne. Ben moi, je suis outré de ça. Aujourd'hui, moi, ma question, elle est, c'est quoi le salaire minimum à Saint-Pierre pour pouvoir y vivre? Voilà aujourd'hui pourquoi je suis là.
En Guyane, il a fallu trouver des solutions en urgence pour les habitants d'un quartier informel à Saint-Jean-du-Maroni.
Et justement, à Saint-Jean-du-Maroni, un quartier informel, c'est un quartier construit de briques et de brocs et de manière parfaitement illégale. Et depuis mercredi dernier, les habitants de ce quartier de Saint-Jean-du-Maroni n'ont plus ni eau ni électricité puisque les branchements pirates ont fait l'objet d'une opération de destruction. C'est la raison pour laquelle s'est tenue vendredi dernier une réunion de concertation à la sous-préfecture pour tenter de trouver des solutions d'urgence à la situation des habitants de ce quartier informel. Maëva Myriam Ponnet de la première Guyane a rencontré le sous-préfet Yves Darro qui présente les possibles solutions envisagées pour un retour à la normale, mais dans la légalité.
Au niveau de l'eau, ça a été l'accord le plus important, c'est-à-dire installation de bornes fontaines dans ces quartiers, mais à une seule condition, c'est que ces bornes fontaines ne soient pas dégradées. Et c'est aux habitants eux-mêmes du quartier d'être les acteurs de cette surveillance. À partir de là, en effet, ça a bien été compris. Dès la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, des bornes fontaines sont installées. En attendant, il y aura de la distribution d'eau dans la journée à partir de robinets. Voilà. Pour l'électricité, c'est évidemment beaucoup plus complexe, puisque l'électricité nécessite en effet des conditions de sécurité et on ne peut pas, là aussi, raccorder des habitations qui sont destinées à être démolis et qui ne sont pas en sécurisation. Et est-ce que leurs habitats sont placés dans des quartiers qui permettent l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie? À partir de là, on pourra étudier des installations temporaires. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y aura pas d'électricité, il faut être très clair.
José Manuel Lamarque, on se retrouve demain, même endroit, même heure, mais cette fois, pour un journal des mers et des océans.
Voilà, c'est ça. Nicolas Saint-Brice, Guillaume Barrage, ils ont traversé l'Atlantique à la rame dans la Talisker Cup des îles Canaries jusqu'à la Barbade pour une œuvre caritative. Bien sûr, c'était pour l'école à l'hôpital. Et vous, Mathilde Munoz, j'espère que vous allez retrouver votre voix demain.
Mais oui, je carbure à la tisane depuis ce matin, ça va aller mieux. À demain, José Manuel Lamarque.
À demain, Mathilde.